Alors, bonjour à tous. Donc, pour commencer, je voulais féliciter Marine pour sa brillante communication. Donc, j'espère que vous en avez pris un peu plus sur Eva de Normandie. Et je remercie donc Sarah pour l'organisation du séminaire et puis pour son introduction. Je te remercie. Et je remercie donc tout le monde d'être là. Donc, merci à vous. Alors, donc, quant à moi, je vais vous parler donc, comme Sarah l'a dit, donc de deux figures féminines importantes du règne d'Henri VIII, ses deux premières épouses, donc Catherine d'Aragon et Anne Boleyn. Donc vous vous doutez bien que si je dis les deux premières, c'est qu'il y en a d'autres qui ont suivi. Donc 6 au total. Les deux donc, que je viens de mentionner, puis on a eu Jane Seymour, Anne de Clèves, Catherine Howard, Catherine Howard et Catherine Parr. J'allais en rajouter une. 6, c'est déjà pas mal. Alors je me permets de faire un bref rappel sur Henri VIII. Donc, il a régné de 1509 à sa mort en 1547 et il a profondément marqué et changé donc, son royaume puisqu'il est à l'origine du schisme anglican, ayant donc engendré le rejet de la papauté ainsi que de son autorité, mais également la reconnaissance du souverain comme chef suprême de l'Église d'Angleterre. Donc, les femmes dont je vais parler aujourd'hui sont au plein cœur de ce changement. Je vais commencer par une courte présentation de chaque reine. Alors, donc pour commencer, on a Catherine d'Aragon, qui est née donc en Castille en 1485. Elle est la dernière enfant de la reine Élisabeth Ière de Castille et du roi Ferdinand V d'Aragon. Elle a vécu donc à la cour itinérante de Castille, donc la cour de sa mère donc principalement. Elle a été fiancée au frère aîné de Henri, qui s'appelait Arthur, puisqu'Henri n'était pas censé régner de base. Donc son frère Arthur était censé régner. Donc elle a été fiancée à lui en 1489, lors du traité de Medina del Campo, alors qu'elle n'avait que 3 ans, et Arthur en avait 2. Donc c'était une enfant, et c'était surtout un outil diplomatique, mais c'était généralement le cas dans les monarchies européennes. Elle a quitté l'Espagne en 1501 pour l'Angleterre, dans le but d'épouser Arthur. Il se marie en novembre 1501, mais manque de chance, Arthur décède en avril 1502. Après cela, il a été suggéré que Catherine épouse Henri VII, donc le père de Henri VIII, après le décès donc, de son épouse Elisabeth d'York, donc en 1503. Mais l'idée a été abandonnée. Tout ça, c'était dans le but de garder la dot espagnole, parce que forcément, l'Espagne était très riche, donc la dot espagnole était très importante. Et l'Angleterre en avait besoin. Donc, comme j'ai dit, donc, l'idée a été abandonnée et une dispense papale a été demandée donc, pour qu'elle puisse épouser le jeune frère d'Arthur, Henri. Le pape a fourni donc, une dispense après que Catherine ait juré que son premier mariage n'a pas été consommé. Et ils se sont mariés en 1509. Et ils ont été couronnés la même année, tous les deux, donc roi et reine d'Angleterre. La non-consommation du mariage sera remise en question donc, lorsque le roi tombera sous le charme de Anne Boleyn et cherchera à obtenir l'annulation de son mariage donc, en utilisant le premier mariage de Catherine avec Arthur comme principal argument. En plus d'utiliser pour preuve le fait qu'aucun héritier masculin n'ait survécu donc, afin d'appuyer son propos, visant à montrer que son mariage avec Catherine était contraire à la volonté divine. On y reviendra un petit peu plus tard. Au cours de son règne, donc, en tant que reine consort, elle tombe plusieurs fois enceinte, mais l'unique survivante est Marie, que vous connaissez comme Marie Ière ou Marie la Sanglante, Bloody Mary, et elle est née en 1516. Alors, je passe maintenant à Anne Boleyn, et je vais parler de la campagne du divorce juste après, parce que les deux histoires sont liées, forcément. Alors, son année de naissance n'est pas sûre. Un point commun avec Emma. Voilà. L'historien britannique Eric Ives pense qu'elle est née en 1501, mais l'universitaire américaine Rita Warnick estime que c'est plutôt 1507. On ne sait pas, on ne saura peut-être jamais. Anne vient d'une famille de marchands. Thomas Boleyn, son père, l'envoie à la cour de Marguerite d'Autriche aux Pays-Bas, car il était proche d'elle, ils étaient amis. Et il a réussi à envoyer sa fille pendant un an, donc là-bas pour vivre à la cour, donc de 1513 à 1514. Et en 1500, 14, donc à la fin, après avoir servi Marguerite d'Autriche, elle est envoyée en France pour servir Marie Tudor, la sœur d'Henri VIII, donc, qui est envoyée en France pour épouser le roi Louis XII. Et après le décès du roi Louis XII, malheureusement en 1515, elle reste 7 ans en France, donc, afin de servir la nouvelle reine consort, Claude, donc la fille de Louis XII et l'épouse de François Ier. Si vous saviez, donc, à l'époque, on ne pouvait pas être reine. Voilà, la loi salique faisait que c'était un homme qui devait reprendre le pouvoir. Donc, elle est l'épouse de François Ier. On sait peu de ses années à l'étranger. Donc, on sait qu'elle repart par contre en Angleterre en 1521. Alors là, je vais venir sur des petites choses qui ont été dites sur Anne. Donc, il est dit que Anne a été influencée par les mœurs légères de la cour de France, ce que l'on retrouve dans la série dont je vais parler aujourd'hui. Cependant, Anne, elle servait la reine Claude, et une femme qui était connue pour sa grande piété et qui vivait souvent en dehors de la cour à cause de ses nombreuses grossesses. Sa cour était stricte et donc certains historiens, donc, suivant cette logique, émettent l'hypothèse qu'elle a pu être confondue avec sa sœur Marie Boleyn, qui, elle aussi, est venue servir à la cour de France et qui a supposément été la maîtresse de François Ier. En 1523, Anne a été fiancée donc, à un autre homme, donc Henri Percy, donc le fils du cinquième comte de Northumberland, mais les fiançailles ont été rompues. Et début 1526, Henri VIII commence à s'intéresser à Anne, tout en étant marié à Catherine d'Aragon, bien sûr. Il tente de la séduire, elle se refuse à lui et refuse donc de devenir sa maîtresse, ayant déjà vu ce que c'était lorsque sa sœur Marie donc, a été sa maîtresse. Henri cherche donc à mettre un terme à son mariage avec Catherine, et pour cela il a besoin que le pape accepte, et donc il déclare que Catherine, ayant été déjà mariée donc, à son frère, en gros, il veut déclarer son mariage nul à cause de la première union qu'il y a eu entre son frère et Catherine. Mais le pape refuse de reconnaître... il pense que le mariage est valide, donc il refuse l'annulation du mariage. Henri n'est pas très heureux, donc il fait le schisme, clairement. Donc il se fait déclarer chef de l'Église d'Angleterre, par un acte de suprématie, donc par le Parlement. Donc il peut annuler son mariage avec Catherine d'Aragon et il peut épouser Anne en 1533. Aussi, Anne a souvent été dépeinte donc, de manière dépréciative. Alors je tiens à préciser que cela est dû à quelques personnes, notamment Eustache Chapuis, donc ambassadeur espagnol à la cour d'Angleterre, qui a grandement participé à ternir son image. C'est également dû à George Cavendish, donc le biographe du cardinal Wolsey, et à Nicolas Sander, donc cette fois-ci c'était sous le règne d'Élisabeth Ier, qui est un prêtre catholique et polémiste. Donc, Élisabeth Ier, qui est la fille de Anne Boleyn. Ça fait un peu plus de sens. Donc maintenant, je vais dire un petit mot sur les portraits que vous voyez. Donc, vous avez d'abord, tout à gauche, un tableau peint par Michael Citeau, donc un peintre estonien. Donc, il a peint ce tableau en 1514. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il s'agit de Catherine d'Aragon ou de Marie Tudor, la petite sœur de Henri VIII. On ne sait pas. Le musée où il se trouve, donc en Autriche, vous avez le nom, je ne vais pas le dire parce que je ne peux pas. C'est pas possible. Je vais écorcher le nom, non, je ne le ferai pas. Mais dans ce musée, donc, le portrait est enregistré sous les deux noms. Ça donne une idée de ce à quoi elle pouvait ressembler étant plus jeune, puisqu'elle s'est censée, si c'est elle, la représenter donc, entre 1500 et 1505. Ensuite, le portrait juste à côté, c'est, cette fois-ci on est sûr, c'est Catherine d'Aragon. Et il date du XVIIIe siècle, donc, et c'est d'un auteur inconnu, mais c'est basé sur le travail du peintre flamand Johan Corvus, oui c'est ça, Johan Corvus, qui a vécu au XVIe siècle. Et enfin, à droite, vous avez un portrait de Anne Boleyn. Celui-ci, alors, il date de la fin du XVIe siècle, donc encore d'un auteur inconnu, mais ça se base donc sur un portrait antérieur qui a été perdu, forcément. Voilà. Maintenant, on y vient. Je vais très brièvement présenter la série d'aujourd'hui, donc de Tudeuses. C'est une série composée de 4 saisons, avec 38 épisodes, diffusée entre 2007 et 2010, et qui a été créée par Michael Hirst. Elle reprend le règne donc, d'Henri VIII, hein, forcément, de 1518 à sa mort en 1547, et c'est vraiment lui le personnage principal de la série. La série contient tout le développement des différents mariages. On a tour à tour les 6 épouses. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, donc forcément, comme je l'ai dit, aux 2 premières, donc Catherine d'Aragon et Anne Boleyn, qui sont présentes donc, dans la saison 1 et la saison 2. Je précise, il y a une scène dans la saison 4 où elles réapparaissent, mais je n'en parlerai pas. Donc, on va se focaliser, saison 1 et 2, et la saison 1, donc, comme j'ai dit, commence en 1518, et la saison 2 se termine en 1536. Pas mal de temps. Donc, l'idée, c'est de voir comment The Tudors dépeint la dualité donc, de Catherine d'Aragon et Anne Boleyn, et pour cela, nous nous attarderons sur leurs portraits qui sont antithétiques, et dans un second temps, nous aborderons leur présence antinomique à la cour. Alors, oui, c'est ça. Donc, voilà. Alors, donc, je vais vous présenter donc, ces 2 portraits féminins qui sont totalement opposés. Donc, nous allons d'abord nous attarder sur la représentation physique. Nous avons Catherine d'Aragon qui est interprétée par Maria Doyle Kennedy, donc, chanteuse et actrice irlandaise, qui avait 42 et 40, donc, pour saison 1 et saison 2, donc 42 et 43 ans au moment du tournage donc, de la première et de la seconde saison. Elle doit jouer Catherine d'Aragon, qui a 33 ans en 1518. Et donc, elle est censée aller jusqu'en 1536, où Catherine d'Aragon avait 50 ans, puisque Catherine d'Aragon décède en 1536. Anne Boleyn, que vous avez à droite, est jouée par Nathalie Dormer, actrice britannique, qui avait 24 et 25 ans au moment du tournage des 2 premières saisons. La série a donc très clairement choisi 1501 comme date de naissance pour Anne, car elle apparaît pour la première fois à l'écran dans le tout premier épisode, donc vraiment en 1518. Donc, avec l'année 1501, elle aurait 17 ans, ce qui est possible. Mais si on établit qu'elle est née en 1507, elle est censée avoir 11 ans, donc ça passe pas. Donc, ils ont clairement choisi 1501. Et elle va jusqu'aux 35 ans de Anne en 1536, à la fin de la deuxième saison. Physiquement, alors, on ne dirait pas, mais les descriptions divergent. Les 2 sont brunes, donc on a Catherine d'Aragon. De ce que l'on sait, elle est normalement blonde. Bon, là, elle est brune. Et l'actrice Nathalie Dormer est normalement blonde. Mais elle s'éteint les cheveux exprès pour ce rôle, donc pour se rapprocher de la réalité historique, car Anne était brune. Cependant, la production n'avait pas prévu qu'elle se teigne les cheveux. Ils avaient vraiment prévu de la garder blonde pour la série. C'est l'actrice qui a voulu se teindre les cheveux. Donc, ce qui n'est pas plus mal finalement, puisque ça nous évite la dualité stéréotypée de la femme brune et de la femme blonde. Catherine, elle est dépeinte comme plus âgée que Anne, ce qui est historiquement vrai. Néanmoins, elle est dépeinte comme plus âgée dès le début de la série, donc en 1518. Donc peut-être pour donner une certaine légitimité à la demande de divorce et creuser le fossé donc, entre la maturité de Catherine et la jeunesse de Anne qui attire Henri, mais aussi pour renforcer l'idée que Catherine n'est plus en âge de tomber enceinte, contrairement à Anne. Alors, j'ai autre chose. Ah oui, de plus, je voulais juste venir rapidement sur les costumes. Les costumes utilisés pour les 2 femmes viennent renforcer cette idée. Donc Catherine est toujours montrée dans de lourds apparats, des robes souvent dans des teintes foncées. Alors, Anne, par contre, c'est différent. Comme vous le voyez ici, donc elle est à droite. Elle est moins vêtue, elle a des robes plus légères. Donc là, c'est donc, saison 1, épisode 3, donc c'est quand elle rencontre Henri. Donc c'est une mascarade et en fait, il joue une pièce et c'est comme ça qu'ils se rencontrent et qu'ils commence à tomber sous son charme. Là, elle porte une robe à bretelles, bon, ce qui historiquement n'est pas, voilà, n'est pas très vrai, mais pour les besoins de la série, c'est pratique. Et oui, pour le préciser aussi, à gauche, donc c'est Gabrielle Anouar, donc c'est donc l'interprète, et elle joue le rôle de Margaret, la sœur de Henri VIII. Alors, nous allons maintenant nous intéresser donc à la sexualisation de ces deux femmes, parce que c'est très frappant dans la série. Il a déjà été établi que The Tudors était une série érotisée, puisque Henri y est explicitement montré ayant des relations intimes avec des femmes. La sexualité de Henri, donc avec Catherine et Anne, est bien différente, puisqu'avec son épouse Catherine d'Aragon, il n'y a aucune scène intime, ni même de mention de visite de Henri dans la chambre de son épouse. Il est montré comme étant obligé de partager sa couche, seulement pour dormir, pour les apparences. Mais c'est vraiment rare. De manière générale, donc Catherine d'Aragon n'est pas un personnage sexualisé dans la série. Elle est présentée comme l'épouse légitime, la mère de famille qui attend le retour de son époux. De plus, elle est dévouée à Dieu, ce qui renforce la sacralisation de son mariage avec Henri. Elle est présentée à plusieurs reprises en priant à l'église pour tomber enceinte d'un garçon. Puisque c'est ce qui résoudrait le problème et qui aurait évité beaucoup de bouleversements en Angleterre, sans doute. Alors, dès l'épisode 3 de la première saison, il y a une séquence de 5 scènes qui renforce la place de Catherine en tant qu'épouse dévouée à Dieu, son mari, et à sa place en tant que mère de famille. Ici, c'est la narration de la séquence qui est intéressante. Donc, je vous ai mis des plans de chaque scène pour illustrer mon propos. Donc, il va y en avoir 5, la suite va arriver. Donc, première scène, donc, vous avez un plan, vous voyez Henri et Catherine qui discutent à table. Ils parlent du traité qui a été décidé avec Charles Quint. Donc, on ne le voit pas, mais elle lui touche la main, donc, en racontant qu'elle a rêvé que leur relation redevenait comme avant. Donc, elle lui jure ne pas avoir consommé son mariage avec son précédent mari. Lui, il retire sa main. Donc, elle lui dit qu'elle l'aime. Lui se lève, va à côté d'elle, pose sa main sur sa joue et l'embrasse sur le front. C'est le seul rapprochement qu'on va voir entre les deux. Voilà. Deuxième scène que vous avez. Henri, donc, juste après avoir parlé avec Catherine, il sort et sur sa route, il croise cette très jolie dame qui sort du lot, qui est un peu mise en avant comparée aux autres. Et donc, comme le roi passe, tout le monde doit faire une révérence à son passage et la dame fait une révérence très marquée. Donc voilà, avec les costumes, forcément, on fait un peu plus attention à sa poitrine, donc comme si on avait le regard d'Henri, finalement. Henri, qui est intéressé, le fait remarquer donc, à l'homme qui est avec lui. Et on voit du coup l'homme qui va chuchoter donc, à l'oreille de la femme, sous-entendu qu'il va se passer quelque chose plus tard. Troisième scène. Oh, c'est assez sombre, comme là on voit mieux. Alors, troisième scène, Catherine est assise donc, devant la cheminée dans sa chambre. Bon, à ce moment-là, on la voit, elle se lève, elle va voir sa fille. Mais justement, sa fille entre dans la chambre. Donc, la mère de famille, elle voit sa fille, elle lui fait un câlin. Voilà. Quatrième scène, Henri est torse nu. C'est surprenant dans la série, ça n'arrive jamais pourtant. Donc, Henri entre dans sa chambre où la femme qu'il a repérée donc, juste avant se trouve déjà. Et donc la femme se met nue, on comprend ce qui se passe, et d'ailleurs, il ne montre pas plus. Donc, c'est bien. Et cinquième scène, on retourne sur Catherine qui entre dans sa chambre et demande si le roi a laissé un message indiquant sa venue ce soir, mais ses servantes lui répondent par la négative. Donc, on voit que Henri pense au plaisir charnel, donc plus au plaisir charnel qu'à son mariage, et plus même à ça qu'à sa propre fille finalement. Cela consolide l'image de Catherine qui se bat seule pour regagner l'amour de son mari. De plus, dans la toute première scène, j'aurais dû le mentionner plus tôt, où elle apparaît, donc tout premier épisode de la série, Catherine arrive à 9 minutes, je crois. 9 minutes, oui. Et la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle parle de l'éducation de sa fille. C'est sa toute première ligne. Donc on la présente directement comme une femme donc, attachée donc, à sa famille, qui est impliquée dans l'éducation de sa fille. Et je voulais souligner par rapport à Catherine qu'il y a aussi une idée de sagesse chez elle. Donc elle ne va pas à l'encontre de ce que veut Henri, car elle a été éduquée comme une princesse et comme une future reine consort. Elle sait donc ce qui est attendu d'elle. Et cet aspect, il est fidèlement rendu dans la série. Elle sait que les relations du roi ne durent pas, donc elle est toujours restée silencieuse quant à ses relations extra-conjugales. Elle dit même à Anne, un peu plus tard dans la série, « He'll get tired of you ». Ce qui est totalement vrai, finalement. Alors, ensuite, la sexualisation de Anne Boleyn est bien plus marquée. Donc, c'est une figure extrêmement sexualisée, et ce, dès sa première apparition, car lors du premier épisode de la saison 1, son père rend visite donc, à elle et à sa sœur Marie pour leur annoncer que le roi se rendra prochainement en France afin de signer un traité de paix avec le roi François Ier. Donc, il leur dit qu'elles auront l'opportunité de rencontrer le roi d'Angleterre. Il leur tend un verre de vin et il leur dit « To your future ». Impliquant donc qu'il aimerait que l'une de ses filles soit remarquée par le roi. Donc les épisodes qui suivent vont dans cette direction, car lors du camp du drap d'or, la rencontre entre Henri VIII et François Ier à Calais, François Ier fait remarquer à Henri VIII la beauté de Marie Boleyn, affirmant que cette dernière est sa maîtresse. Peu de temps après, Marie et Henri ont un rapport sexuel, Marie devenant donc la maîtresse d'Henri. Mais il se lasse rapidement de Marie, donc on a le plan donc, qui est tiré de la scène dont je vais parler. Thomas Boleyn fait venir donc, sa fille Anne à la cour et il lui demande de se rapprocher du roi tout en gardant ses distances afin de garder les intérêts du roi envers Anne un peu plus longs, un peu prolongés, pour que la famille Boleyn s'attire les bonnes grâces du roi. Donc la relation de Henri et Anne, elle est également caractérisée par de la frustration sexuelle de la part d'Henri, car Anne se refuse à lui tant qu'elle n'est pas son épouse légitime. La représentation de Anne joue sur son charme, et la série joue beaucoup sur son apparence physique en utilisant son image avec des tenues provocantes, un peu comme ici. Un petit peu. Donc vous avez à droite une affiche promotionnelle donc, pour la série, et en dessous de The Tudors, vous avez un sous-titre assez explicite, King Takes Queen. Donc, on la voit serrée contre lui. Il porte sa main donc, à sa gorge. Donc, c'est une image de domination sexuelle et de contrôle sur la figure féminine qui ne va pas sans annoncer le destin de Anne qui finira exécutée par décapitation en 1536. L'hypersexualisation de Anne dans la première saison la montre très facilement comme la conspiratrice qui a réussi à attraper Henri dans ses filets. Et donc son hypersexualisation l'a inévitablement finalement réduite à son rôle habituel de l'autre femme séductrice. Michael Hirst, le créateur de la série, donc pour lui, il n'a jamais recherché à ce que ce soit le cas et qu'au contraire, il pensait qu'en voyant la série, les spectateurs allaient penser que c'est Thomas Boleyn, finalement, le méchant de l'histoire. Et c'est un peu tout le monde, finalement, dans la faction Boleyn. Le comportement séducteur de Anne et sa sexualisation donc, renforcent, en plus, l'image de Catherine comme dévouée à Dieu et son époux. On a vraiment deux entités complètement différentes. L'interprète de Anne Boleyn, donc Nathalie Dormer, a dit dans une interview, je cite, une femme peut avoir plein de facettes et pourtant les hommes, en littérature et à la télévision, semblent avoir besoin de simplifier la femme, de nous polariser soit comme la prostituée ou alors comme l'ange. L'image est claire, Anne est montrée comme la prostituée, comme la femme pécheresse qui recherche le plaisir physique, tandis que Catherine est l'ange, la femme dévouée dans sa foi à Dieu et à son époux. Alors, nous allons maintenant passer à ma seconde partie qui s'intéresse donc à la présence de ces deux femmes à la cour. Donc la dualité de Catherine d'Aragon et Anne Boleyn se traduit aussi à travers leur présence à la cour. Premièrement, ces deux femmes s'opposent dans leur idéologie religieuse. Bon, rapidement mis. Catherine d'Aragon est profondément attachée au catholicisme, ce qui se voit très clairement dans la série car elle prie très régulièrement et elle est très attachée à la figure d'autorité que représente le pape. Pour elle, l'autorité du pape est suprême. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle s'en remet à lui pour juger de la validité de son mariage avec Henri. Lors du Blackfriars Trial En 1529, dans l'épisode 8 de la première saison de la série, la cour est présidée par le cardinal Wolsey et le cardinal Campeggio, envoyé par le pape. Cependant, Catherine, dès le premier jour du procès, remet en cause l'autorité de cette cour et s'en remet au pape pour juger de son mariage. Par ailleurs, il faut aussi noter que historiquement, Catherine a toujours baigné dans la foi catholique, ses parents étant les célèbres rois catholiques d'Espagne. Ce qui se passe dans la série touche, donc, et dans le développement de son personnage, donc ça touche à sa foi, au sacrement du mariage, à la remise en question de sa virginité qu'elle a jurée devant Dieu. Cependant, en s'attaquant au sacrement du mariage, Catherine ne peut, en voyant Henri s'attaquer au sacrement du mariage, Catherine ne peut accepter car il s'agit d'une attaque envers le pape, qui a fourni une dispense pour ce mariage, mais également envers Dieu. Dans le dernier épisode de la première saison, Catherine se bat pour récupérer son mariage, donc elle essaye tout d'abord, tout simplement, très gentiment envers Henri. Et donc, une fois qu'elle a tout essayé, finalement, elle se bat. Et elle dit, lors d'une discussion avec Henri, elle lui dit « I hear that several of your agents have been sent abroad to collect scholars' opinion about the divorce. For every scholar that votes for you, I could find 1,000 that would vote for me. » Donc ça ressemble même à une menace finalement venant de Catherine, ce qui est très surprenant, mais c'est qui développe son personnage finalement. Il ne faut pas non plus mettre de côté donc, le fait que Catherine dit au début de la série que le cardinal Wolsey, qui était alors chancelier du royaume, a fait partir toutes ses dames de compagnie espagnoles. Elle est montrée comme seule, une étrangère qui n'a plus personne à qui se rattacher. Son mari, son pilier finalement, ne la soutient même plus et veut se débarrasser d'elle. Son mariage, sa fille et sa foi sont tout ce qui lui reste. Donc maintenant, je vais passer à Anne. Donc Anne, elle défend la réforme religieuse. Pendant ses années en France, donc elle a eu l'occasion de côtoyer Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, qui est probablement, celle qui a initié Anne aux idées de réforme religieuse, puisqu'elle prônait une réforme de l'Église catholique. Elle n'était pas protestante, elle voulait juste une réforme de l'Église catholique. Dans la série, Anne est d'ailleurs celle qui initie Henri au livre intitulé The Obedience of a Christian Man, écrit par le protestant William Tyndale. Et donc ça c'est dans l'épisode 9 de la première saison. Ce livre va déclencher l'idée d'acte de suprématie dans la série, car Tyndale considère que le monarque est également à la tête de l'Église de son pays finalement. Anne Boleyn œuvre pour sa faction à la cour d'Angleterre, la faction prônant donc la réforme religieuse forcément. La faction en question est composée de Anne, son père Thomas, son frère George, son oncle le duc de Norfolk, ainsi que le proche conseiller du roi Thomas Cromwell, même si ce dernier va finir par se désolidariser de la faction pour perpétuer leur chute. Je vais faire un tout petit point sur la théorie des factions. Donc, c'est une théorie qui est défendue par plusieurs historiens. Et donc, elle dit que la politique menée pendant le règne d'Henri VIII, finalement, elle aurait été régie par les membres influents de la cour et de l'administration et non pas par le roi lui-même. Donc ces groupes y gravitaient autour du souverain et même au plus proche de lui, puisqu'ils étaient au sein même du gouvernement et même de la cour. Donc Anne, on s'en rend compte, elle a un double intérêt dans la série, attirer les bonnes grâces du roi pour sa famille, mais aussi pour pousser la réforme religieuse en Angleterre. C'est lors de la seconde saison que le rôle de Anne en politique devient plus important. Celui de Catherine, lui, s'amenuise, puisqu'elle quitte la cour lors du premier épisode de la seconde saison. Par ailleurs, la figure de Anne change entre la première et la deuxième saison. Nathalie Dormer, donc, comme je vous ai dit, l'interprète de Anne Boleyn, a réussi à faire changer le personnage auprès de Michael Hirst pour la deuxième saison. Anne est toujours sexualisée, mais montrée comme intelligente. Elle est engagée autant dans la politique que dans la réforme. On la voit instruire ses dames de compagnie sur la Bible traduite en anglais qu'elle met à disposition dans ses appartements. Aussi, elle se dispute avec Cromwell sur l'utilisation des richesses confisquées dans les monastères par la couronne après l'acte de dissolution de 1536. Maintenant, je vais en venir à un autre point, peut-être l'aspect le plus marquant pour une reine, son pouvoir. Donc le pouvoir dont je vais parler n'est pas le même que celui de Henri VIII, ni même que de Emma de Normandie, puisque Catherine d'Aragon et Anne Boleyn, étant épouses de Henri VIII, n'ont été que reines consorts. Donc, cependant, elles ont eu un pouvoir, que ce soit auprès de Henri ou auprès, donc, en termes de popularité auprès des sujets anglais. Catherine, dès le début de la série, n'a plus de pouvoir sur le roi. Donc, même étant son épouse, la série, comme elle débute en 1518, il manque 9 ans de règne de Catherine d'Aragon. Il n'est donc pas possible de juger, de son influence, que ce soit sur son époux ou sur les sujets anglais. Avant sa rencontre avec Anne, Henri avait déjà plusieurs maîtresses ou aventures. Et la série accentue ce point car avant même de voir Catherine à l'écran, lors du tout premier épisode, on peut voir Henri avec sa maîtresse Elizabeth Blount ayant un rapport intime. Donc elle tente à plusieurs reprises de verbaliser le problème auprès de Henri, mais il l'ignore. Le fossé se creuse encore plus entre les deux lorsque Anne fait son apparition à la cour. Henri tombe sous le charme de Anne et Catherine n'a définitivement plus aucun contrôle sur la situation. Donc elle se bat comme elle peut en défendant son mariage. Alors, en revanche, Anne a une grande influence sur le roi. Et ça, on le voit beaucoup dans la série. Et elle en a de plus en plus à mesure qu'elle se rapproche de lui. Donc j'ai déjà mentionné le fait qu'elle lui fasse lire « The Obedience of a Christian Man ». Donc maintenant, je vais parler d'une autre scène. On voit encore mieux là. Alors, dans l'épisode 8 de la première saison, Anne et Henri partagent un moment intime. Elle souffle que ce ne serait pas le cardinal Campeggio qui retarderait le verdict du procès, mais que ce serait le cardinal Wolsey. Le plan que vous voyez, donc sans jamais le mentionner bien sûr, elle l'insinue seulement, elle ne mentionne jamais son nom. Le plan que vous voyez donc, est issu de cette scène, et donc, je le trouve très intéressant car c'est un gros plan donc, qui nous invite à rentrer dans la conversation des personnages. Et à ce moment-là, donc, on ne le voit pas, mais Henri, il est à genoux. Donc, devant Anne, il est positionné plus bas qu'elle et elle porte la main à son épaule pendant que lui la regarde intensément. Donc, elle est plus haute, elle a la main sur son épaule, donc elle a le dessus sur la situation. Par ailleurs, elle est positionnée à gauche sur le plan et si on suit le sens de lecture d'un plan, celui-là, on commence donc, par voir Anne et ses yeux donc, qui vont dans ce sens de lecture puisqu'elle regarde Henri. Ensuite, en s'intéressant à Henri, on voit ses yeux qui regardent aveuglément Anne intensément. Enfin, si on arrive à voir, parce que c'est un peu sombre. Et enfin, on rebascule à gauche. Et là, pour le coup, ça marque le fait qu'elle soit plus haute que lui, finalement, puisqu'on se rend compte que les têtes ne sont pas au même niveau, même si elle essaie de se pencher un petit peu. Elle a de l'emprise et de fait, dans la scène qui suit, Henri discute avec le cardinal Wolsey, lui faisant part de ses doutes concernant sa loyauté. Et oui, donc Anne a une emprise donc, très importante sur le roi, emprise qui repose donc sur l'attente d'avoir des rapports intimes donc, avec Anne, mais aussi sur le fait qu'elle puisse donner un héritier masculin à Henri. Parce que ce que je n'ai pas précisé quand je dis moment intime ici, c'était pas quelque chose que je pouvais passer à l'écran ici. Voilà, donc c'est aussi ça renforce l'idée que c'est par ce biais-là que Anne a son pouvoir. Je voulais ajouter que dès qu'il a. Bon, là, il n'a pas encore Anne en soi, puisque elle ne s'offrira à lui que quand elle sera son épouse légitime. Mais dès qu'il a réussi à avoir Anne et qu'il prend conscience qu'elle n'obtiendra pas, qu'il n'obtiendra pas d'héritier masculin d'elle, elle perd son emprise sur lui. Maintenant, je vais passer donc, à la popularité auprès des sujets anglais. Donc, il y a un déséquilibre qui se révèle entre Catherine et Anne. Donc, nous n'avons pas le couronnement ni même le mariage de Catherine, comme j'ai dit, la série débute en 1518. Néanmoins, nous avons un aperçu de sa popularité dans la saison 1, lors de l'épisode 8. Donc, c'est le Blackfriars Trial, dont j'ai déjà parlé. On ne voit pas beaucoup, mais c'est Catherine qui est en train d'arriver. Pour s'y rendre, Catherine doit passer devant une foule de sujets qui l'applaudissent, donc autant à l'aller qu'au retour, car comme je l'ai déjà mentionné, donc elle quitte la cour, ne reconnaissant pas la légitimité de la cour pour juger de la validité de son mariage. À son deuxième passage, donc quand elle repasse devant la foule, elle est encore applaudie, tellement que lorsque Wolsey s'adresse à Campeggio, donc à l'intérieur du bâtiment, on peut entendre la foule acclamer Catherine. L'image que vous voyez est un plan d'ensemble, donc son but est double. Il plante le décor, donc, qui entoure les protagonistes, en l'occurrence le fait qu'elle soit entourée par la foule, et il renseigne sur les personnages en les montrant en action. Donc, sur ce plan, la caméra est placée derrière une partie de la foule pour justement accentuer l'effet de masse qui souligne sa popularité. De plus, le point de vue est ordinaire, donc à hauteur d'yeux, donc cela donne une proximité donc, entre la foule et Catherine. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avant que Catherine ne passe la foule, c'est Henri et ses conseillers. Donc, j'ai pas l'image, malheureusement, mais juste avant, c'est Henri qui se rend au procès. Et il n'est pas filmé de la même manière. Il est filmé en gros plan, donc marchant donc jusqu'à l'entrée de l'église, avec un mouvement latéral de la caméra qui permet de le voir entouré de ses conseillers. On n'a pas du tout cette prise de vue qui souligne justement sa popularité. Ensuite, bon, ça c'est très rapide, mais on va passer rapidement sur la popularité de Anne, puisque elle n'est pas vraiment populaire. Donc là, c'est le troisième épisode de la saison 2. Donc Catherine a déjà quitté la cour. Donc Anne devient reine puisque c'est la procession pour le couronnement. Et là, vous voyez donc les deux hommes que vous voyez, donc c'est le père de Anne et son frère. Donc c'est la procession et on se rend compte que la foule s'est très peu amassée pour voir passer la nouvelle reine. C'est notamment accentué, donc de fait, on voit très peu de personnes qui ont les bras le long du corps, qui ne font rien, contrairement à Catherine qui était applaudie. Et donc c'est accentué aussi par le fait que Thomas Boleyn dit à son fils « Where are the crowds? Where are the people ?» ce qui marque son grand manque de popularité. Et par extension, ça renforce donc la popularité de Catherine, qui est reléguée donc, maintenant qu'elle n'est plus reine, donc au rang de princesse douairière de Galles, comme elle est la veuve de Arthur. Donc pour conclure cette communication donc portant sur les dualismes de la représentation féminine entre Catherine d'Aragon et Anne Boleyn, donc le but était de chercher à savoir comment la série de Tudors dépeint la dualité entre les deux premières épouses du roi. Il a été établi donc, que la série présentait deux portraits féminins antithétiques, tant sur le choix des comédiennes que dans le développement de leurs personnages, notamment avec la piété de Catherine qui est très marquée et la sexualisation de Anne qui l'est encore plus. Puis leur présence opposée à la cour a été soulevée. Donc, Catherine défendant le catholicisme et gardant une popularité importante auprès des sujets anglais, même si dès le début de la série, elle n'a plus aucun pouvoir sur son époux. En revanche, Anne, qui défend la réforme religieuse, n'atteint pas le niveau de popularité de sa prédécesseur, mais elle a un atout considérable, son emprise sur le roi, même si celle-ci diminue une fois qu'elle est sur le trône. Il faut garder à l'esprit que la représentation donnée par The Tudors est largement influencée par ses auteurs donc, et même les interprètes, comme on a pu le voir, donc, des personnages historiques. Mais encore plus par la période de production, donc, ce qui donne cette image parfois modernisée, notamment donc, avec la sexualisation de Anne Boleyn. Donc, c'est maintenant terminé. Donc, j'ai fini ma communication. Je vous remercie pour votre attention.